Si vous avez vos Bibles, je vous invite à tourner dans Éphésiens chapitre 6. C'est aujourd'hui qu'on conclut cette étude sur Éphésiens par les salutations finales. Donc, Éphésiens chapitre 6, et on va lire à partir du verset 21. Pour que vous sachiez, vous aussi, ce qui me concerne et ce que je fais. Tychique, le frère bien-aimé, fidèle dans le Seigneur, fidèle serviteur du Seigneur, vous mettra au courant de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et qu'il console vos cœurs. Que la paix et l'amour soient donnés aux frères avec la foi de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec vous tous. Avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'une manière inaltérable. On va prier. Oui, Seigneur Dieu, on veut ouvrir ta parole que tu nous as laissée, Seigneur, humblement. On a besoin d'être transformé par les vérités qu'elles contiennent et on veut te donner l'occasion de nous transformer, Seigneur, ce soir. Parle à nos cœurs, encourage-nous à travers cette personne psychique qui est méconnu, Seigneur, et qui est quasiment pas présent dans la Bible, mais qui, tu nous l'as conservé pour nous, Seigneur. Amen. Il y a quasiment 10 ans, ça fait quasiment déjà 10 ans, je suis à l'Assemblée ici, et puis on cherchait une église, on n'était pas satisfait d'où ce qu'on allait pour diverses raisons, et puis je me suis mis à visiter les églises de la région. Je me suis ramassé chez une petite assemblée de frères qu'on appelle exclusifs, ou encore d'arbistes. On était à peu près ce jour-là, 8 dans l'assemblée, une petite salle. On était 3 hommes et il y avait une adolescente avec sa mère. Puis on était 8 ou 9. Et puis, mais je me rappelle encore du message de la personne qui a pris la parole ce jour-là. À mon grand étonnement, le seul message que j'ai vu dans une église d'arbistes, c'est à partir d'une généalogie, dans le livre des Chroniques. Je me souviens plus exactement c'était quoi le texte, mais il s'est mis à attirer notre attention sur 3 personnes dans cette généalogie dans le livre des Chroniques. Puis quand il a fini de lire la généalogie, ben en fait la liste de personnes qui travaillaient dans le temple et plus les généalogies là-dedans, il a souligné ces 3 personnes puis il a dit, voyez, ces 3 personnes, c'est la seule place dans la Bible qui sont présents. Et la seule chose qu'on sait de ces personnes, si ma mémoire est bonne, c'est qu'ils sont portiers. Pourquoi qu'ils sont là? Alors, suite à ça, bien, il a enchaîné avec un exposé dans le livre, dans 1 Samuel, pour nous parler de David. Et puis, là, il nous rappelle que David s'est battu contre l'ours, contre le lion, et puis enfin contre Goliath. Et puis, quand il parlait à Goliath, à Saül, avant d'aller combattre Goliath, il a attiré notre attention sur ce verset, dans 1 Samuel 17, 37. Où ce que David veut montrer ce que l'Éternel a fait pour lui. Et il termine son discours en disant, « David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Alors Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » On aime les héros. Puis lui, il voulait souligner que ces 3 personnes dans les généalogies sont pratiquement des héros. La seule chose, on aime les héros. Moi, j'aime Samson, tu sais, qui a pris un crâne avec Down puis qui a tué 1000 personnes. Tu sais, ça c'était, mais un portier, c'est comme, tu sais, qu'est-ce que tu dis là? Mais il prend David, et puis lui, là, son message, il y avait 2 points. Le premier, c'était que la foi qu'on exerce quand personne ne nous voit, c'est la foi qui va être pratiquée quand il va y avoir des personnes. Et le point de David, c'était « L'Éternel a agi quand j'étais dans le bois avec mes brebis, puis j'ai tué l'ours, puis j'ai tué le lion, mais il va encore intervenir avec ce Philistin. Et le deuxième point qu'il voulait souligner, c'est que même si pour nous, certains ministères semblent insignifiants, comme portier, Dieu le voit et Dieu se souvient. Et Dieu n'attache pas moins d'importance à ces ministères qui, pour nous, semblent rien. On aime les héros, mais Dieu se souvient d'eux, de leur fidélité. La seule chose qu'on sait de ces personnes, c'est qu'ils étaient portiers. Et dans notre texte ici, pour faire le lien avec ce texte, c'est qu'on a Tichic. Et comme qu'on va voir Tichic, il y a 5 textes dans la Bible qui parlent de Tichic. Et on sait pas beaucoup de choses sur cet homme. Mais il finit sa lettre d'Éphésiens, Paul, et attire notre attention dans ses dernières exhortations très pratiques sur cet homme. Pourquoi? Et j'aimerais regarder ça avec vous. En fait, j'aimerais regarder premièrement le contexte. Ensuite, on va voir que Paul est pratique. En fait, il applique ce que lui-même a écrit dans sa lettre aux Éphésiens. Et on va voir suite à ça la double bénédiction qui n'est pas un standard de Paul, qui est un petit peu particulière, et on va regarder ça aussi par la suite. Commençons par le contexte. Éphésiens, 6 chapitres, environ 50 messages ou 60, quelque chose comme ça qu'on a fait sur ces passages, commence, après les salutations, par la plus longue phrase du Nouveau Testament. 202 mots dans l'original. Qu'est-ce qu'Éphésiens? Éphésiens, c'est 155 versets. 120 de ces versets font directement référence à Jésus-Christ. 80 à la personne de Dieu. 15 au Saint-Esprit. Paul, dans cette lettre, utilise le mot « vous » à 80 reprises et le terme « nous » à au moins 45 reprises. Ce qui signifie qu'au moins une fois et demie par verset, Dieu est impliqué. Et pratiquement une fois par verset, nous sommes impliqués. Alors, Paul veut être extrêmement pratique dans cette lettre. Ça nous rejoint tous. Le thème central, même d'ailleurs, on a donné ce thème à notre série, c'est l'unité. Et l'unité, pour Paul, c'est quelque chose de primordial, même d'essentiel. Et dans ce premier chapitre, il lance, dans le fond, l'exposé le plus long sur qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Et à 3 reprises, on a le texte le plus clair de ce que Dieu veut de nous. Célébrer la gloire de sa grâce, qui revient 3 fois dans le premier chapitre. Pourquoi nous sommes créés? Pour célébrer sa gloire. Ça revient au verset 6, 12 et 14 du premier chapitre. Suite à ça, il y a le chapitre 2, et ensuite ça, il y a une prière pour terminer le chapitre. Ensuite ça, le chapitre 2, il nous explique c'est quoi cet évangile, qu'on est mort dans nos péchés, qu'on est racheté par grâce, par la foi seule, et ça, c'est un don de Dieu. Et ensuite de ça, chapitre 3, 4, des choses pratiques de la vie de l'Église, 5, 6, dans la vie du croyant, le mariage, au travail, c'est très pratique. D'ailleurs, il y a Brian Chappell qui fait un bon résumé des vérités contenues dans ce livre. Il dit la source divine de notre relation avec Dieu, chapitre 1 et 2. Le besoin d'unité dans nos relations, chapitre 3 et 4. La beauté de la relation amoureuse et sacrificielle dans nos familles qui nous aide à intégrer et à refléter la grâce de Jésus-Christ, chapitres 5 et 6. Donc, c'est une lettre relationnelle. Il veut vraiment qu'on mette en pratique ces choses pour qu'on puisse avoir des bonnes relations parce que ça préserve l'unité. Mais quand même, on arrive au chapitre 6 et à partir du verset 10, il nous introduit à un combat spirituel dans lequel chaque croyant, on est pris. On est pris dans ça. Et ce combat, bien, dans le fond, c'est qu'on a à résister, à tenir ferme. Et ce combat, face à ces principautés, puis aux forces des ténèbres, les dominations des ténèbres, si pour reprendre les termes du texte, attaque aussi directement l'unité de l'Église. Et Paul se soucie de ça. Et suite à ça, il enchaîne avec les armes. Combat spirituel dit armes spirituelles qui inclut l'amour, la paix et la vérité. Et ce sont les trois termes principaux, les trois sujets principaux de cette lettre. Amour, paix et vérité, grâce. Mais pour relier ce combat à nos propres vies, Paul est conscient qu'il ne peut pas combattre seul. Alors il sollicite les prières de cette église. Et là, c'est le verset 19 et 20 du chapitre 6. Mais Paul est conscient que les Éphésiens n'ont pas toute la situation de Paul, et donc il veut pourvoir à ce manque. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Dans ses salutations, il va répondre à ça. J'ai besoin de vos prières, mais j'ai besoin de vos prières précises. Parce que dans ce combat, le risque que Paul vit, c'est de ne pas être capable de transmettre correctement et convenablement l'Évangile. Alors il envoie cet homme, Tychique, pour leur annoncer ce que Paul fait. Et ça, c'est sa salutation. C'est la conclusion de cette lettre. En fait, si on regarde au chapitre 3, verset 13, « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. » Les tribulations que vit Paul semblent être, dans le contexte de cette lettre aux Éphésiens, une cause de chute peut-être pour cette église et pour ces personnes. Et Paul se soucie de ce problème et veut répondre à ça. Et il veut répondre d'une façon particulière. Il y a l'introduction de cet homme. « Pour que vous sachiez, vous aussi, ce qui me concerne et ce que je fais, Tychique, le frère bien-aimé, fidèle serviteur du Seigneur, vous mettra au courant de tout. » Tychique semble avoir deux rôles. Le premier rôle qu'il a, c'est d'informer de la situation de Paul à ces personnes. Le deuxième, je vous l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez ma situation et qu'il vous console et qu'il console vos cœurs. Donc, c'est une personne qui est choisie par Paul pour consoler et encourager cette église. Et maintenant, j'aimerais regarder ce que j'appelle le pragmatisme de Paul. Paul est très pratique. David Paulusson a dit ceci à propos de cette lettre aux Éphésiens. Paul souhaite bâtir un message qui favorisera l'exercice d'un ministère envers des personnes réelles. Paul ne veut pas simplement dresser un portrait théologique de ce qu'est l'Église, puis comment qu'on vit là-dedans, puis waouh, Dieu là-dedans, mais il veut vraiment s'investir envers ces personnes qui existent en passant. Là, Éphésiens, c'était une vraie... Il y avait des églises là-bas, à Éphèse. Là. Et il veut être très pratique. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence par souligner à deux reprises le rôle de Tychique. Si on lit, il nous dit, « Pour que vous sachiez... » Verset 22. Je vous l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez. Paul sait que sa situation est problématique. Mais il ne veut pas que le peuple reste dans l'ignorance. Parce qu'un peuple dans l'ignorance, c'est un peuple qui a de la difficulté à garder l'unité. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Paul ne peut pas aller à Éphèse, alors il prend cet homme, Tychique, et il l'envoie là. Pourquoi Tychique? C'est qui ça, Tychique? Cinq textes dans le Nouveau Testament qui parlent de cet homme. Et j'aimerais que vous voyez ce que la Bible dit de Tychique. Alors, tournez dans Actes, 20, verset 4. Et on va regarder ces passages ensemble. Paul en Macédoine puis en Grèce, il avait pour l'accompagner Sopater, fils de Pyrrhus, de Bérée, Aristarque et Secondus de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée ainsi que Tychique et Trophime, originaire d'Asie. C'est tout. C'est un compagnon de Paul. Actes nous dit que Tychique, c'est un compagnon de Paul. Tournez maintenant dans Colossiens 4, 7. En ce qui me concerne, Tychique, le frère bien-aimé, fidèle serviteur du Seigneur, mon compagnon dans le service du Seigneur, vous mettra au courant de tout. Je vous l'envoie tout exprès pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. À un mot près dans l'original, c'est exactement les mêmes paroles que dans Éphésiens. Et maintenant, on tourne dans 2 Timothée 4:12. 2 Timothée 4:12. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. C'est tout. C'est quelqu'un qu'on envoie. Et Tite 3:12. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, empresse-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Qu'est-ce qu'on sait de Tychique? C'est un compagnon de Paul. En fait, le texte le plus explicite concernant Tychique, c'est Éphésiens, notre cinquième texte. Éphésiens nous apprend que Tychique, c'est un frère bien-aimé, c'est un fidèle serviteur et c'est un fidèle compagnon de service. Paul le choisit exprès et probablement que c'est Tychique qui amène cette lettre pour donner à l'église d'Éphèse et aux églises à Colosse, pour amener la lettre, parce que c'est une personne de confiance, mais particulièrement parce qu'il semble être une personne d'encouragement et d'exhortation. Paul a plusieurs compagnons, il y en avait une liste dans Actes, mais dans tous ses compagnons, il attire l'attention sur une personne, Tychique. Et les textes qui semblent nous dire, c'est que c'est quelqu'un qui a la capacité de consoler. Ça semble pas, et peut-être que c'est le cas, mais on ne le sait pas. C'est peut-être un grand prédicateur, les textes ne le disent pas. Mais il est reconnu dans les églises en Asie mineure pour son encouragement. Et ça, c'est notable. En fait, ce qui est extraordinaire avec Tychique, c'est qu'il ne semble pas être extraordinaire. Mais Dieu nous conserve ce témoignage pour qu'on se souvienne de lui. Oui, Paul est pratique, mais en même temps, ce passage nous montre et nous révèle des détails sur le cœur de Paul. Pourquoi il a choisi cette personne? Parce qu'il se soucie de la situation de l'Église d'Éphèse. Je voudrais en dire plus sur Tychique, mais c'est ce qu'on sait. Mais on peut faire quand même des applications par rapport à ce texte. Et j'aimerais tout de suite tomber dans le pratico-pratique parce que le texte est pratique. Alors, premièrement, j'aimerais regarder quelques leçons qu'on peut tirer de Tychique et quelques leçons qu'on peut tirer de Paul face à ce texte. Premièrement, Tychique. L'exhortation et l'encouragement, c'est un ministère considéré comme silencieux par nous, mais pour Dieu, c'est essentiel. C'est vital pour la vie de l'Église et pour chaque individu. Il est extrêmement facile de critiquer, de juger. On parlait de ça pendant la prière, la personne la plus mal placée ce soir, c'est moi. parce que vous me regardez toutes et vous jugez que vous le vouliez ou pas. Alors, il y a des personnes qui vont sortir d'ici qui vont se mettre à dire, ouais, c'était ci, c'était ça. Et je ne veux pas être la cause de division, d'église. Mais ouvrir la parole de Dieu, c'est pas facile parce qu'elle dit des choses qu'on n'aime pas entendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on attaque le messager. Si vous voulez des exemples, vous viendrez me voir. Je peux vous en donner des exemples. Et c'est facile de critiquer. Mais d'aller encourager une personne, ça se fait pratiquement dans la solitude parce qu'il y a la personne qui veut aller encourager et la personne qui est encouragée. C'est pas un ministère public, incroyable. Et on peut le faire à travers la prédication. Mais si j'ai cette capacité comme Tychic sans m'avoir d'aller vers les gens et d'encourager, là, ça me révèle beaucoup sur le cœur de cette personne. Mais c'est en même temps excessivement difficile d'aller puis d'encourager des personnes. Et notre culture, je vous le dis, on aime Samson, là, un crâne, on tue 1000 personnes. Puis c'est ça qui est valorisé dans les films, dans le cinéma, puis dans la culture. Mais quelqu'un qui va encourager quelqu'un, n'en parle pas. Dans les livres de leadership ou dans le journal Les Affaires, dans les sections leadership, on ne parle pas des boss qui encouragent leurs employés, on ne parle pas de ça. Ce qu'on veut savoir, c'est comment ils font de l'argent. Puis on sait que pour faire de l'argent, comme que la majorité ou beaucoup de personnes font dans le monde des affaires, ça se fait sur le dos de plusieurs personnes. Elles ne sont pas là pour s'encourager. Quand j'étudiais en psychologie à l'université, on faisait à un moment donné le profil des vrais hommes d'affaires. Mais en fait, pas les hommes d'affaires, mais ceux qui mettent les personnes dehors. Et il y avait souvent un ratio émotionnel beaucoup moins élevé que la majorité du monde. On cherche des personnes comme ça parce que dans les situations difficiles, ce qu'on veut, c'est pas quelqu'un qui a trop d'émotions pour dire à quelqu'un « t'es dehors ». Qu'est-ce qu'on veut? Quelqu'un qui n'en a pas d'émotion, ou du moins qui ne le manifeste pas. Puis lui, bon, il donne la grosse job sale. Mais c'est lui qui est en avant souvent. Mais là, ça ne s'adresse pas juste aux leaders d'église ou de compagnie. Regardez les pères de famille. Qui est attaqué aujourd'hui dans notre société? Beaucoup, les pères de famille. N'importe quel couche de la société où ce qu'il y a un leader en quelque part, c'est peut-être la mère au foyer, c'est peut-être vous qui êtes professeur dans la classe, c'est peut-être vous qui êtes policier ou ambulancier ou quelque chose comme ça, mais aussitôt qu'on arrive dans une place où ce qu'on a un minimum d'autorité ou de leadership, la chose la plus facile à faire, c'est de critiquer. Mais encourager, ça c'est difficile. Ça demande de l'humilité. Mais Dieu attache énormément d'importance à ça, à l'exhortation, à l'encouragement. Thomas Jefferson était troisième président des États-Unis. Mais avant d'être président des États-Unis, il était vice-président, premier vice-président des États-Unis. Et puis il disait, « J'aime la job de premier vice-président. J'ai plein d'amis, tout le monde m'aime. » Et il est devenu président. Et il a dit, « J'ai jamais pensé que c'était aussi difficile d'être président. J'ai perdu tous mes amis, chacun, tous. On veut me tuer. » C'est pas facile d'être leader. J'ai été à Poste Canada quand j'étais là. J'ai demandé, ils sont venus me voir, puis ils voulaient que je sois premier vice-président pour le syndicat. Je ne suis pas ici pour proclamer le syndicat. Je suis très, très modéré sur ces questions. Mais je ne me suis pas présenté. Ils sont venus me voir, puis ils ont dit, on veut que tu nous représentes. La raison qu'ils m'ont donnée, c'est que, justement, j'étais capable de représenter autant le patronal que le côté syndical. Et puis, dans ces questions, bien, à un moment donné, on était autour de la table, puis le président ne comprenait pas pourquoi il était si critiqué, puis moi, je t'ai aimé. Alors, la raison, c'est bien simple, c'est toi, tu es le premier, moi, je suis le deuxième. Et si je passe premier, tout le monde va me détester. C'est sûr. C'est sûr. Et quand on était sur le plancher de travail, je me souviens de quelqu'un qui disait, « Tu sais là, que le président ne fait pas l'unanimité, je le sais. » C'est sûr, il est président. Il faut qu'on le critique. Ben, il est président, il faut qu'on le critique. Wow! Va donc l'encourager à la place. T'sais. Mais ça, c'est pas exclusif aux leaders, mais c'est assez flagrant de prendre ça et de vraiment être capable de voir que l'encouragement, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et ma deuxième application va être très simple, et je vais la dire comme ceci. Vous êtes doué pour l'encouragement? Encouragez. Vous n'êtes pas doué? Travaillez à ça. Parce que Dieu regarde l'encouragement comme quelque chose d'excessivement important parce que ça préserve l'unité dans l'Église. Et partout dans la Bible, on voit que les personnes qui encouragent, c'est des grandes personnes aux yeux de Dieu. Pas à nos yeux, mais aux yeux de Dieu. Parce que la façon que je vais méditer à comment encourager les personnes, dans le silence, dans le secret, va se refléter quand il va avoir des personnes autour. Et dans les situations difficiles, c'est ce qui va ressortir. Et si on est sensible à la manière de manifester notre amour en privé, on va grandir inévitablement dans notre leadership, que ce soit dans notre rôle familial, que ce soit dans notre rôle d'église, que ce soit au travail, que ce soit à l'extérieur. Et à ce moment-là, c'est excessivement difficile de reprendre une personne qui est réputée pour être encourageant. Et là, on commence à s'approcher de comment Jésus était. Même cloué sur la croix, Jésus prenait la peine de trouver quelqu'un pour prendre soin de sa mère, de trouver quelqu'un pour aller encourager ses frères, de même clouer sa croix dans les moments les plus difficiles. Jésus met de l'avant l'encouragement. Et j'aimerais regarder aussi, Tychic est un modèle pour nous en ce sens, parce que la seule chose qu'on connaît de lui, c'est que c'est quelqu'un qui est fidèle dans son service, et qui encourage. Et des hommes et des femmes comme ça, ben on veut les utiliser, on veut s'approcher d'elles. Deuxièmement, j'aimerais regarder quelques leçons tirées de la vie de Paul dans ce texte. Pourquoi Paul? Parce que Paul, c'est un leader. Et la façon qu'il répond aux besoins de cette église d'Éphèse nous donne des leçons sur c'est quoi un bon leadership. Et j'aimerais regarder quelques petites choses avec vous là-dessus. Rapidement comme ça, allons-y avec les classiques. Premièrement, Paul choisit des personnes fidèles pour exercer un ministère. Bon, l'application directe, c'est êtes-vous fidèle dans les petites choses, afin qu'éventuellement, on puisse vous utiliser. Et là, on peut prendre à peu près n'importe quelle liste qui concerne les anciens. Et la fidélité, c'est quelque chose qui revient et qu'on veut voir chez des personnes. Et ce qui est remarquable dans les listes de caractéristiques pour les anciens, comme disait Don Carson, c'est qu'ils sont remarquablement pas remarquables. Je vais répéter. Les listes de qualifications des anciens sont remarquables justement parce qu'ils sont pas remarquables. Il n'y a rien dans les listes de qualifications des anciens qui est remarquable. C'est la vie chrétienne normale d'un chrétien éprouvé puis qui manifeste ces choses. On dit pas que l'ancien ne soit pas orgueilleux. Ah, moi je peux être orgueilleux parce que ça c'est les anciens. Non, la Bible elle dit pas ça. On est tous appelés à pas être orgueilleux, mais les anciens, c'est ce qu'on veut. Et donc on doit tendre vers ces choses. Et les personnes qu'on met dans le ministère et qu'on regarde pour déléguer, on veut qu'ils soient fidèles. Es-tu chic, ce genre d'homme comme ça? Et Paul cherche et choisit ces hommes pour faire des choses. Deuxièmement, Paul choisit des personnes compétentes pour l'œuvre d'édification du corps de Christ. Et là, on a le mot « compétence ». Mais la compétence n'est jamais dissociée du caractère. Jamais. Et mon texte préféré pour ça, c'est Psaume 78, verset 72. Compétence et caractère chez les leaders. Et on voit ça chez Paul. Et David, ben verset 70, il a élu David, son serviteur, il l'a tiré des bergeries, il l'a pris derrière les brebis qui allaient pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les a fait paître avec un cœur intègre et les a conduits avec des mains intelligentes. Deux choses qu'on voit chez David, un cœur intègre. Ça nous parle du caractère du serviteur, ça nous parle du caractère de David. Mais aussi, il travaillait avec des mains intelligentes. Des mains. Il faisait les choses d'une façon intelligente. D'une façon que le peuple pouvait être nourri. Caractère et compétence vont ensemble. Troisièmement, Paul veut que les Éphésiens sachent ce qu'ils concernent. C'est-à-dire que le leadership de Paul, c'est de ne pas garder le monde dans l'ignorance. Il fait de la communication intentionnelle. Il veut qu'on sache. Parce que si le peuple ne sait pas, il y a des risques de division. Il y a des risques de manque d'unité. Et en faisant ça, le peuple est encouragé. Et Paul le fait de trois façons. Premièrement, il écrit une lettre. Il écrit une lettre qui probablement Tychique va amener à ces personnes. Et le contenu de la lettre d'Éphésiens, c'est un encouragement. Mais Paul sait qu'une lettre n'est peut-être pas assez. Alors, dans toutes ces personnes qui l'accompagnent, deuxièmement, deuxième chose qu'il fait pour les Éphésiens, c'est qu'il mandate une personne spécifiquement choisie. « Je vous l'envoie exprès vers vous. » Donc, il choisit parmi ces personnes la personne pour les encourager. Avez-vous remarqué que écrire un courriel d'encouragement à quelqu'un est excessivement difficile? C'est facile dans un sens, parce que tu sais, je peux écrire un courriel pour encourager ou une page Facebook ou peu importe, mais c'est difficile de transmettre vraiment pour que l'autre personne sente que vous voulez l'encourager. Si vous n'avez jamais vécu ce problème-là, bien, essayez d'écrire un courriel d'encouragement à quelqu'un. Et rapidement, on se rend compte, chacun d'entre nous qui va faire ça, qu'il n'y a rien comme une main sur l'épaule puis dire « Je t'apprécie ». Tu peux écrire trois pages d'encouragement, mais juste le simple fait de mettre la main sur la personne et de dire « J'ai apprécié ce que tu as fait ». Ça bat n'importe quel courriel. Et Paul le sait. Et il envoie quelqu'un pour faire ce rôle-là dans l'Église. La troisième chose qu'il fait, c'est qu'il prie pour eux. Il prie. Il ne se contente pas de dresser juste le portrait théologique de la chose, mais il prie. J'avais jamais remarqué ça. Hier, j'ai trouvé un monsieur qui est Ligon Duncan qui disait « La moitié de la lettre d'Éphésiens, d'une façon ou d'une autre, est une prière. » Ah ouais. Effectivement, la moitié de la lettre d'Éphésiens est une prière, d'une façon ou d'une autre. Paul prie pour eux. Ses prières sont toutes conçues pour montrer le cœur de Paul. Et ça, en manifestant son cœur de berger pour ce peuple-là, ça cultive aussi le désir de ces personnes d'avoir un ministère envers le corps de Christ. Pourquoi? Parce que la communication est intentionnelle. Soyons très pratiques ici. Il est bon que des leaders d'église, pasteurs anciens, diacres et toutes les autres qui ont un rôle de leadership aient avec le peuple, avec ses brebis, pour prier avec eux. Parce que la prière favorise la communion fraternelle. Et ces choses sont intimement liées dans ce que les anciens ont voulu conserver dans leur ministère, et on le voit dans Actes 2. Tout le monde le connaît par cœur, sauf quand on est en avant. Les apôtres qui vont déléguer des personnes plus tard, eux, ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils persévéraient dans l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain, la prière. Ce qui est important pour un ministère, les apôtres, ce qu'ils voulaient garder, et ce qu'on voit même dans la vie de Paul, c'est que l'encouragement, la prière, et les deux vont de pair. Et remarquez que dans la fraction du pain, souvent, les deux sont là. Et la parole est ouverte. Et tout comme Jésus, c'est un combat qui se fait souvent seul, à genoux. Mais pour Paul, la prière dans Éphésiens, ça se fait en communauté. À beaucoup de reprises, pas juste ça, mais quand il parle, c'est souvent dans vos prières, et non pas ta prière, toi tout seul dans ta chambre, en quelque part. Mais il écrit à cette église parce que la prière en communauté doit, d'une façon ou d'une autre, nous amène à l'unité de l'église, à l'unité du corps de Christ. Et on devrait, en tant qu'église, mettre de l'avant les cellules de prière. Peu importe la forme, ça c'est des technicalités. Mais vous n'avez pas de cellules de prière, je vous encourage, venez me voir, il faut qu'on trouve une façon. Mais durant la semaine, le christianisme, pas le dimanche matin ou le dimanche soir, ça se fait à tous les jours de la semaine. Et une cellule de prière favorise l'unité du corps. Et quatrièmement, Paul met une priorité sur le ministère d'encouragement. Et une des raisons qu'il pousse à le faire, c'est que ça favorise l'unité du corps et donc la communion. Cultiver la communion. Mais ça, c'est pas facile. Paul met en place une stratégie pour conserver et augmenter l'unité du corps de Christ à cette place Éphèse. C'est ça qu'il fait de façon pratique. Sa stratégie, c'est de trouver la meilleure personne d'encouragement pour aller porter la lettre. Puis en même temps, les consoler. Et j'aimerais vous dire que c'est l'application de ce que Paul fait en Éphésiens 4, 1 à... en fait, tout le chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur avec patience. Et là, notez les termes. Supportez-vous les uns les autres avec amour en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Et de façon pratique, Paul trouve quelqu'un pour faire ça. Et suite à ça, qu'est-ce qu'on voit dans le texte? Il y a un corps, un seul esprit. Là, l'unité qui est poussée de l'avant. Et qu'est-ce qui suit tout de suite après? C'est qu'il donne des dons à l'Église et il donne des personnes qui vont venir et faire ces rôles-là pour perfectionner dans le but d'édifier le corps. Et en priorité, c'est des ministères qui touchent l'unité du corps. Parce que l'unité du corps est excessivement difficile à atteindre. Pourquoi? Parce que naturellement, on n'est pas aimable. On pense qu'on l'est, mais on ne l'est pas. Et je crois, pour le dire d'une façon directe, claire et précise, que Cap-la-Madeleine, présentement, a besoin d'entendre ces choses. Jésus disait, « Heureux ceux qui procurent la paix. » Et depuis quelques semaines, ma prière, c'est « Aide-moi à procurer la paix. » Et c'est la chose, à mon sens, la plus difficile à faire présentement dans ma vie. J'ai eu de la misère à dormir avec les nouvelles qu'on a eues dans l'Église. J'étais au courant d'un peu les discussions. J'étais avec les diacres, il y a plein de choses qui se passent. La moitié de l'Église est au courant de la moitié de l'histoire. Et là, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Heureux ceux qui procurent la paix. Mais ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Supportez-vous les uns les autres avec amour en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Et Paul veut mettre ça de l'avant et dans sa salutation finale, il aurait pu dire à peu près n'importe quoi, mais il choisit d'envoyer une personne pour faire ça. C'est peut-être vous. C'est peut-être vous qui va être capable, comme Tychique, d'être reconnu pour amener la paix. Et quand va venir le temps des discussions, puis c'est pratiquement inévitable qu'un jour ça va venir, la véritable question dans des cas comme ça, c'est de quelle attitude et de quelle façon je vais aborder la question ou les questions. Mais Paul finit pas là. C'est que suite à ça, il fait ce qui n'est pas standard, c'est qu'il donne une double bénédiction qui résume l'entièreté de la lettre. Trois sujets qui reviennent. Unité, comme qu'on a vu, quatre sujets, l'unité du corps, qui veut mettre de l'avant, qui répond de façon pratique, et ensuite de ça, suite à ça, il veut qu'il y ait un surplus de bénédictions pour nous qui sommes en grâce. Et là, écoutez, que la paix et l'amour soient donnés aux frères avec la foi de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'une manière inaltérable. Et ce qui me frappe là-dedans, c'est que la grâce commence maintenant. Elle commence maintenant, mais elle va avoir des répercussions dans l'éternité. Mais la grâce est accompagnée de la paix, de l'amour et de la foi. Mais ça, c'est tout le contenu de cette lettre. Et si on met ça de l'avant et on veut préserver l'unité, on va pouvoir commencer à goûter à cette paix, à cet amour et à cette joie et cette foi qui est une bénédiction de la grâce de Dieu, qui nous est donnée par Dieu et il veut qu'on aspire à ça et qu'on goûte à ces choses. En fait, il commence sa lettre comme ça. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et il termine comme ça. Que la paix et l'amour, et plus tard, que la grâce soit avec vous. La seule différence, c'est qu'il les a inversés. Pourquoi qu'il les a inversés? La paix, ce n'est pas seulement la cessation des hostilités. Ce n'est pas juste le fait qu'il n'y ait plus de chicanes. Mais c'est de la paix au sens biblique du terme implique qu'on jouit du bien-être que Dieu veut nous donner. On jouit de la personne de Dieu. Et son désir, c'est qu'on jouisse de la personne de Dieu. Parce que la paix et la grâce découlent de ça. Et paix et grâce, pourquoi en ordre inverse? Plusieurs raisons. Parce qu'il donne la prééminence en termes de position à cause de sa place importante dans cette lettre. Donc, c'est un sujet important. Il veut le mettre là. Il y en a qui vont dire, parce que c'est un terme important dans une bénédiction, ça revient à peu près dans toutes les conclusions. Ou encore, il y en a d'autres qui vont dire, parce que vers la fin des lettres, on termine comme ça. Et j'ai trouvé beaucoup de commentateurs qui pensaient comme ça. À mon sens, puis vous avez le droit de ne pas être d'accord, là, la bénédiction non standard de Paul reflète les thèmes uniques de cette lettre. Et Paul les rassemble ici, il veut que ces choses fassent partie de l'expérience du croyant. Recherchons ces choses. L'expression qui est intéressante aussi, c'est que la paix et l'amour soient donnés aux frères avec la foi. Littéralement, le texte dit l'amour avec foi. L'amour accompagne la foi. En fait, la foi est intimement liée à l'amour. Et grammaticalement, les grammariens du grec nous disent que le terme foi se rapporte à amour et non avec paix et amour, mais particulièrement avec l'amour. Pourquoi? La foi, c'est un don de Dieu. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2:8. Qu'est-ce qui est un don de Dieu? C'est la foi. Mais l'amour aussi, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans son esprit, dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. L'amour aussi, c'est quelque chose qui est donné par Dieu. C'est des choses que Dieu donne. Recherchons ces choses et veut nous les donner. Un Jean nous dit, 4:19, je vous le lis rapidement, et j'aimerais vous donner deux exemples de ça, c'est frappant. Pour nous, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et on n'aime pas les frères, parce qu'il veut connecter tout de suite Jean avec les frères, mais on est menteur. L'amour pour Jésus est le plus grand indice du travail de l'Esprit de Dieu dans le cœur du croyant. Et j'aimerais vous donner quelque chose de flagrant dans les Écritures, que ça me passionne ces textes. Dans Romains, il nous dit « À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. » Donc, il y a des personnes à Rome qui sont bien-aimées de Dieu. Mais regardez au chapitre 8. Je vous lis. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, il y a des personnes qui aiment Dieu. Et comment ça fonctionne? Chapitre 5, entre les deux. Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est un don de Dieu qui se manifeste de façon claire dans l'Église vers les frères et les sœurs qui naturellement ne sont pas aimables. Et je ne suis pas aimable moi aussi. Et ceux qui me connaissent, je vous donnerai la liste d'Église où ce que je vais prêcher. Vous lui demanderez si je suis toujours aimable. Parce que l'objectif de la grâce, c'est de nous transformer. Et là, il faut que je coupe. Alors, je vais dire simplement ceci. Deux illustrations. Max Strout nous a dit, et je veux souligner le fait que l'objectif de la grâce est de nous transformer, et Paul veut favoriser ce genre de ministère dans l'Église. Max Strout a dit ceci, « Oui, il nous aime, mais il nous aime trop pour nous laisser tel quel. » Je trouve ça tellement bien dit. « Oui, il nous aime, mais il nous aime trop pour nous laisser tel quel. » J'ai reçu un courriel d'un de mes amis. J'ai essayé de le retrouver, malheureusement, je l'ai effacé, mais le courriel était tellement, tellement beau. Et je veux terminer en soulignant encore l'importance dans chacun de nos vies du ministère d'encouragement. Le courriel commençait comme ceci. « J'ai un test pour vous. » Et là, on commence à lire le test. Et c'est 10 questions. Peut-être que vous l'avez vu. J'ai reçu ça d'un de mes amis. Et par cœur, là, j'essaie de me souvenir un peu des questions, c'est « Nommez-moi le dernier prix Nobel de la paix. » « Nommez-moi le dernier prix Nobel de la physique. » « Nommez-moi celui qui a reçu la coupe une telle de soccer à telle place. » « Nommez-moi, et là, le prix de la culture ou de la littérature. » Et là, il y a 10 questions comme ça. les grands de ce monde. Et la majorité des questions, personne n'est capable de répondre. Moi, j'avais la réponse à un. Et là, pour pas qu'on voit la suite du courriel, tu sais, il y a un grand espace blanc. Et là, ensuite, il disait, « Nommez-moi la dernière personne qui vous a mis la main sur l'épaule pour vous dire « J'ai apprécié ce que tu as fait. » Nommez-moi un professeur au primaire qui vous a donné une qualité. Nommez-moi un pasteur ou un ancien qui est venu vous voir pour vous encourager dans un ministère. Nommez-moi une personne. » Et la morale du courriel, ça l'a terminé en disant environ ceci. Ceux qui marquent nos vies, ce n'est pas les héros qu'on voit partout qui reçoivent des trophées dans des soirées de plaquettes. C'est ceux près de nous qui ont cette capacité à nous encourager, qu'on ne voit pas, qu'on ne soupçonne pas, eux marquent nos vies. Et c'est impressionnant de voir à quel point Paul veut ça pour chacun d'entre nous. Il termine Éphésiens sur des choses comme ça. Prions pour notre Église et prions aussi pour nos cœurs dans ça. Développons pas de l'amertume, développons plutôt l'encouragement et la modération dans les choses qui, actuellement, peuvent peut-être, et si vous n'êtes pas au courant de ces choses-là, tant mieux, tant mieux. Mais allez encourager ceux qui sont peut-être au courant. L'Église, c'est le lieu de renouvellement du croyant. Des personnes rachetées au sang de Christ. C'est ça que nous sommes. Nous sommes rachetés au prix de la vie de Christ. Prions. Seigneur Dieu, c'est pas facile de se faire dire qu'on a tendance à critiquer. Et en chacun de nous, c'est naturel. On ne travaille même pas pour ça, Seigneur. On ne travaille même pas pour faire les guerres, les chicanes. Ça, c'est naturel. Et c'est une lutte pour nous de s'encourager. Donne-nous ta grâce, Seigneur. Des hommes comme Tychique, on ne sait pas grand-chose de cet homme, mais ce qu'on sait, Seigneur, c'est que tu te souviens de son ministère d'encouragement. Et donne-nous, Seigneur, de tendre vers ça. Que ça se manifeste dans tous nos ministères, les moniteurs d'école du dimanche, ceux qui passent le balai, qui arrosent les plantes, qui font de la décoration, le son, et toutes ces femmes au foyer qui vont marquer la vie de leur enfant et de leur mari. Je vais te prier pour les leaders de notre société, dans nos églises, dans notre église, nos papas dans l'église. Donne-nous d'être encourageants. On veut ces choses, Seigneur. C'est en ton nom qu'on te prie. Amen.